heureux, on est tellement heureux aujourd'hui parce que c'est une projection qu'on a souhaité faire il y a 2 ans. On avait déjà projeté Ganzahar pour la première édition des Intergalactiques en avril 2012. Et j'avais appelé Jean-Pierre, mais super tard. On m'a dit, mais appelle Jean-Pierre, il est du Grenoble, c'est pas si le, enfin, s'il est motivé, il viendra.
À vélo.
Tout simplement. Et j'appelle Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, une semaine avant, il avait fait autre chose ce soir-là, normal. Enfin, c'était, mais bon, je lui dis, un jour, je jouerai Ganzahar dans cette programmation avec Jean-Pierre Andrebon pour le présenter. C'est parce qu'on l'avait fait en séance payante il y a 2 ans qu'on fait en séance gratuite aujourd'hui. Donc, tout ça sympa en journée d'avoir des séances qui se déroulent. Et voilà, il n'y a pas, voilà, y a pas à se poser la question, pour vous être payant, etc. Donc, c'est vraiment double bénéfice. Une belle séance gratos de Ganzahar sur le grand écran, présentée par Jean-Pierre Andrebon. Maintenant, je me tais, je passe la parole à notre intervenant, Jean-Pierre. C'est tout à toi.
Merci et merci à vous d'être là. Je ne sais pas trop quoi vous dire, hein, parce que j'ai l'impression que Ganzahar, je le présente depuis 30 ans. Donc j'ai tendance à répéter toujours la même chose, ce qui est bien normal. Je ne sais pas si je vais tout répéter, je ne sais pas ce que vous souhaitez m'entendre dire. Bon, simplement pour retracer un peu la chronologie de ce film, ça a commencé par une bande dessinée que j'avais essayé de faire. Là, c'était il y a très longtemps, hein, en 67-68, vous n'étiez pas né. Et je voulais faire une bande dessinée comme ça parce que c'était l'époque de Forrest avec Barbarella, les premiers albums, ou le premier album de Drouillet. Donc, j'avais envie de faire une bande comme ça, qui ne soit pas des petites cases comme les bandes classiques de la ligne claire, Tintin et Jacob, tout ça. Et j'avais comme ça, j'étais vaguement parti sur un scénario assez flou, mais avec une planète étrangère, avec des monstres bizarres, avec des robots. Et donc, j'ai commencé à faire des grandes planches en couleur, hein. Je devrais peut-être ajouter, que, parce que vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que ma formation première, c'est le dessin et la peinture. Hein, je sors des beaux-arts. Je ne suis pas. L'écriture est venue après. Bref, à cette époque-là, je voulais faire la bande dessinée. Alors j'ai fait une dizaine de planches comme ça, sur cette histoire qui s'appelait déjà Les hommes-machines contre Ganzahar. Et puis j'ai essayé de la placer, bon, sans succès. Hein. Il y avait Jean-Jacques Pauvert, c'était à peu près le seul qui aurait dû à l'époque me publier, mais ça ne l'intéressait pas. Eric Losfeld, pareil, qui avait publié Barbarella. Donc je me suis dit, mais j'ai un sujet quand même, je ne vais pas en rester là. Et sur mon scénario assez vague de bande dessinée avortée, j'ai donc écrit ce roman, un premier roman. C'était mon premier roman, hein. Les hommes-machines contre Ganzahar. À l'époque, j'avais dû publier une nouvelle en fiction, hein, la fameuse nouvelle de ce fameux numéro de mai 68. Et puis, moi, je voulais faire de la littérature populaire, quoi. C'était un space et time opéra, donc avec plein d'ingrédients comme ça. Alors, je l'ai envoyé au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir me l'a refusé en disant, ah, non, c'est trop intellectuel pour notre lectorat. Bon, d'accord, ok, très bien. Donc, deuxième envoi, j'ai envoyé à Robert Canters, qui était à l'époque le directeur présent du futur chez De Noël. Et je me souviens très bien, je me souviens encore, comment ne pourrais-je pas m'en souvenir, en rentrant de vacances, donc fin août 69, donc c'était l'année d'après, j'avais dans ma boîte aux lettres, parmi le courrier qui m'attendait, une lettre de Robert Canters, qui me disait déjà, autrement, est très bien, on le prend, on le publie dans 2 mois. Alors, full job, évidemment. Donc, c'était mon premier roman. En présence du futur, chez De Noël, une collection qui avait un petit peu abandonné plus ou moins d'éditer des Français. Hein. Donc j'étais un des premiers Français à revenir comme ça en présence du futur. Donc j'étais très content. Puis après, bon, ma carrière avec un K et des guillemets a continué en présence du futur. Et puis bon, moi je pensais que ça en resterait là. Et puis un jour, ça, deuxième point comme ça, nodal, dont je me souviendrai toujours, je reçois une, je ne sais plus si c'est un coup de téléphone ou une lettre, mais peu importe, de René Laloux qui me dit « Ah mais j'ai lu Les hommes-machines contre Ganzahar, je trouve que c'est vraiment bien, est-ce que vous accepteriez que j'essaye d'en faire un long métrage de science-fiction ?» Moi, est-ce que j'accepterais ?» Bien sûr, j'ai fait un saut jusqu'au plafond, j'ai tout de suite répondu, d'accord. Et alors à l'époque, René Laloux avait déjà sorti 2 longs métrages, hein, La planète sauvage, d'après un roman de Stéphane Jules, et puis des dessins de Topor, et puis un second, Les Maîtres de la Lumière, je crois que je n'ai plus vraiment le titre en tête. toujours d'après un roman de Stephen Hull, mais dessiné par Moebius cette fois. Alors on a commencé à travailler là-dessus, hein, avec Lalou, par correspondance, hein, il n'y avait même pas d'internet à l'époque, on était en 72-73, et puis tout de suite on a choisi comme dessinateur Casa. Casa c'était déjà un copain à l'époque, puisqu'il a débuté à peu près en même temps que moi, moi mon premier roman, lui son premier album, et j'étais très content que Lalou choisisse Casa, qui est toujours un excellent dessinateur. Alors là a commencé une longue course du lièvre à travers les champs, parce que Lalou a d'abord monté un studio à Angers, je crois. Il voulait faire du dessin animé en France, mais ça ne marchait pas, il n'y avait pas les subventions nécessaires. Alors après, il a essayé d'entrer en coproduction avec la Tchécoslovaquie. Ça n'a pas marché non plus. Puis ensuite avec le Québec, qui est quand même une patrie importante de dessins animés. Ça n'a pas marché non plus. Et là, près de 20 ans ont passé, ou presque. Et puis, il a pu, par je ne sais plus quel contact, contacter des studios en Corée du Nord, qui était aussi un pays, l'Asie étant aussi une terre d'élection pour le dessin animé. Et en fait, la fabrication de Gandahar, le film que vous allez voir là, ça s'est fait en Corée du Nord. Hein, ça a duré pendant un an et demi. Lalou étant pas toujours sur place, il y avait son Leclerc, son adjoint, qui restait un an et demi là-bas. Alors c'était, ils m'ont raconté, je ne vais pas vous raconter, c'était pas drôle parce que la Corée du Nord, c'est pas un pays très drôle, hein, il n'y a rien, pas de cinéma, pas de salle de spectacle, rien du tout. Il fallait être rentré à 7h du soir, etc. Avec des flics devant la porte de l'hôtel, bref. Mais quand même, ce film s'est fait, hein, avec les dessins préparatoires de Casa, qui n'a pas travaillé directement sur le film, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les intervallistes, hein, c'est les petits cubains qui dessinent avant l'informatique, hein, avant les images de synthèse, qui dessinent comme ça 24 images par seconde, en réalité c'est 12 images par seconde pour les dessins animés. Mais donc le film s'est fait, a réussi à être terminé, en fin 87, je crois, pour une sortie comme ça en 88, donc c'est quand même vieux malgré tout. Et malheureusement, ça c'est un grand regret, c'est que ça a été le dernier film de long métrage d'animation de René Lalou, qui a fait par la suite un court métrage, hein, toujours avec Casa, puis ne trouvant pas de subvention pour continuer à travailler, il a abandonné malheureusement l'idée de faire des dessins animés et il est devenu professeur à l'école d'Angoulême d'animation, puis il s'est remis à la peinture. Et puis voilà. Donc voilà, vous allez voir un film qui est à peu près quand même unique, hein, même si je ne suis pas grand chose juste à la base, dans le cinéma français, où il y a très peu, ou en tout cas il y avait très peu à l'époque, parce que ça coûtait très cher, plus cher que maintenant, de films d'animation, et surtout de films de science-fiction, parce qu'effectivement il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois que dans l'univers du cinéma de science-fiction et d'animation de science-fiction, ils resteront toujours après La Bergère et le Ramoneur, bien entendu, ces trois métrages de René Lalou qui resteront, et mon plaisir étant que très souvent, effectivement, Gandahar est rediffusé sur une autre chaîne de la télévision. Donc voilà, vous allez voir un film d'animation qui ne ressemble pas à ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Ce n'est pas des images de synthèse, il n'y a pas de la 3D. C'est des images au contraire très, très carrées, très colorées, comme le sont les dessins de Casa, qui continuent à faire des couvertures, en tout cas, même s'il fait des BD. Et voilà, ça a été un moment du cinéma, un moment de ma vie qui se sont conjugués, et pour lequel je garde évidemment une petite flamme au fond du cœur. Voilà!